I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous parle de jeux vidéo et de l'actu du jeu vidéo. On vous résume à peu près tout ce qu'il y a d'important à retenir dans cette merveilleuse industrie. On y met une petite dose d'analyse et de discussion et on vous livre ça pour que vous n'ayez plus aucun besoin de consulter les millions de blogs qui vous assènent de news interminables. Bon, bien sûr, vous pouvez aller les explorer si nécessaire, ou au hasard, aller regarder Geek Inc, qui lui aussi vous propose des news de vidéo également. Je dis ça pas du tout. Ah oui, moi je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte, et j'ai le plaisir de recevoir dans ma caverne, tout à fait par hasard, l'animateur principal de Geek Inc.
Alors, le boss final.
C'est ça, comment on dit, le patron, est-ce que tu es un patron bourgeois?
Alors, ça dépend, est-ce que on m'appelle président, des fois on m'appelle le boss, tu vois.
Écoute, le boss, ça me va, merci Cédric Bonnet d'être avec nous.
Avec plaisir.
J'espère que tu passes une excellente journée en compagnie de ton ami Ryder.
C'est ça. Scott Ryder.
C'est ça, puisqu'on va bien sûr parler de Mass Effect Andromeda, on aura un petit Nintendo Corner, puisque décidément l'adage se confirme, on va parler de Nintendo à chaque épisode jusqu'à la fin de l'année au moins, c'est pas plus mal en même temps, on parle bien de Microsoft et de Sony presque à chaque fois, et puis on aura plein d'autres petites news en plus, mais je vous propose de commencer immédiatement par les impressions de Cédric sur la grosse sortie de, j'allais dire du mois, mais en fait même pas, de la semaine, qui est Mass Effect Andromeda, puisque toi tu es, pour remettre dans le contexte, un grand fan de la série.
Ah ouais, alors là moi je suis un fan hardcore de Mass Effect, on compte plus les produits dérivés que j'amasse chez moi, du t-shirt N7 en passant par le mug et tout ce que tu veux, hein.
D'accord.
Donc les Funko Pop et tout ça, tu vois, j'ai un Shepard sur mon bureau, enfin bref.
Très bien.
Vraiment je suis fan hardcore de la série, et en plus pour tout te dire c'est des jeux. Pour l'anecdote, comme ça, Mass Effect 2 et 3, je les ai fait avec Mass Effect 2 avec mon fils sur moi, avec la manette calée sous ses fesses pour le bercer, quand il venait de naître. Et Mass Effect 3, en fait, est sorti quand ma fille est née. Et donc, j'ai aussi fait Mass Effect 3 avec ma fille, cette fois, sur le ventre.
D'accord.
Pendant qu'elle dormait la nuit, tu vois, je m'occupais d'elle et en même temps, je jouais surtout.
Oui, un papa gamer qui a trouvé la bonne combine, en fait. Il time les naissances de ses enfants avec les sorties des jeux auxquels il veut vraiment jouer.
Exactement, comme ça, la nuit, tu as du temps pour jouer, donc ça, c'est génial.
C'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui craignent un peu ce moment fatidique.
Ouais.
En fait, tu peux.
Exactement. Tu peux, et en plus, avec un peu de chance, les vibrations des manettes vont aider vos enfants à se rendormir. Ouais, mais c'est vrai en plus.
Donc, écoute, parfait.
Voilà,
ton optimisme m'emporte.
C'était l'anecdote. Mais bon, alors, Mass Effect, pour résumer, hein, donc d'abord, c'est une trilogie. La trilogie Shepard, qui en gros raconte l'histoire de. Je ne vais pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas fait et qui aimeraient le faire. Hein, mais
non, mais on peut simplement dire c'est une trilogie.
En gros,
les gens connaissent. Hein, je pense qu'il y a peu de gens qui écoutent cette émission.
Pour résumer, la race humaine a trouvé... On ne sait jamais. Mm-hmm. La race humaine a trouvé un artefact sur Mars qui lui a permis de faire d'énormes progrès dans la conquête spatiale, à quitter le système solaire surtout. Et en quittant le système solaire, elle est rentrée en contact avec une race extraterrestre qui s'appelle les Turiens. Et il y a eu donc la guerre du premier contact où, en gros, bah, la première chose qu'on fait quand on croise quelqu'un qu'on connaît pas, c'est on lui tape sur la gueule.
Tu nous fais toute l'histoire de Mass Effect, en fait.
Non, mais
toute
c'est juste pour poster la base, pour montrer que bon, on n'est pas arrivé en étant super copain.
On entend ton fils derrière qui entend Mass Effect et du coup il se réveille.
Il veut venir parler. C'est dans leur gène maintenant.
C'est ça.
Voilà. Mais voilà. Du coup, Mass Effect, ça raconte ça et ça raconte comment l'humanité doit faire sa place au sein de la communauté intergalactique, intergraciale de la galaxie, de la Voie Lactée. Et donc on découvre toutes les races présentes dans la Voie Lactée qu'on ne connaît pas, évidemment, et voilà. Et
en
donc,
fait, j'ai dit intergalactique, mais en fait non, c'est intragalactique.
C'est intragalactique.
Dans les trois premiers, oui.
Ouais, mm-hmm. Ouais. On retrouve la Terre, d'ailleurs, dans un des épisodes et tout ça. Mars aussi, d'ailleurs. On découvre la base sur Mars et on découvre justement un petit peu toute cette histoire. Et donc, il y a une race ancienne qui s'appelle les Protéans, qui ont laissé des artefacts comme ça, qui ont permis à certaines races de s'éveiller et d'aller un peu plus loin. Et l'histoire, c'est ça. Et là où Mass Effect est très, très fort, c'est... dans l'écriture des personnages.
Alors c'est un jeu BioWare, donc effectivement c'est un jeu de rôle où on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Les relations sont très très importantes, etc.
Voilà,
etc.
On peut tomber amoureux d'un personnage du sexe opposé ou pas d'ailleurs, de la même race ou pas d'ailleurs. Et c'est plutôt cool. Il y a un aspect un peu Star Trek par certains aspects du scénario. Et on retrouve évidemment des choses un peu à la Star Wars aussi. Enfin, et puis surtout en fait c'était ça faisait partie de ces jeux où, quand on prenait une décision, elle avait un impact sur le jeu. Alors, des fois, c'est minime. Mais pour certaines décisions que l'on fait, on se retrouve face, par exemple, à des choix très cornéliens du genre, soit par amitié avec un personnage de son équipe, on annihile une race extraterrestre entièrement, soit on a pitié de cette race extraterrestre, mais du coup notre ami sera plus totalement loyal vis-à-vis de nous, et donc dans la mission de fin il y a des chances pour que il survive pas, par exemple, tu vois.
Ouais,
et
donc
on
c'est
est tout le temps face à des choix comme ça, et Mass Effect ça m'a appris un truc dans le jeu vidéo, c'est d'assumer ses choix. Et c'est très bête, mais souvent j'étais en train de dire c'est quoi le choix le plus optimisé machin, et en fait je me suis dit non, je vais faire comme si j'étais moi-même Shepard et je vais faire un choix qui aura des conséquences que j'assumerai. Et c'est le premier jeu où j'ai accepté de perdre mes personnages dans la mission de fin, où tu vois, enfin, où je me suis dit, j'écris une histoire.
Tu vas pas refaire juste pour avoir les trucs.
Genre, je connais des potes qui ont refait pour avoir vraiment tous les mecs qui survivent et tout ça. Et je me suis dit, non, justement, je veux pas, la vie est pas parfaite. Et, non, mais c'est vrai.
Oui, je te le confirme.
Et pourquoi ça serait toujours un happy ending? Et donc, je suis parti du principe que Mass Effect me permettait ça, et donc, j'assumais mes choix. Donc voilà,
d'accord.
Ce que je fais. Ah, ça crie chez moi.
Oui, oui, non, mais c'est pas grave.
Il y a un mauvais choix qui a été fait.
Effectivement. Et là, donc, c'est le Mass Effect des enfants.
C'est ça.
D'accord. Donc ça, donc la première trilogie, l'effet que ça a eu, c'était quand même avec Dragon Age, enfin certains épisodes de Dragon Age, on va dire. Ah, là, il y a un téléphone qui sonne.
Ah, tu veux pas parler du 2.
Voilà, c'est ça. Et donc.
Et pourtant, moi, j'ai bien aimé Dragon Age 2, mais pas pour le jeu qui était complètement raté. Mais pour les personnages, que moi j'ai trouvé, certains personnages étaient totalement attachants et le chara-design même des personnages au global était plutôt cool. Après, l'histoire même était intéressante. Seulement, c'est clairement, ça a été très mal exploité et le jeu était merdique.
Je crois qu'on va pas repartir sur le débat sur Dragon Age 2 parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais donc la trilogie Mass Effect, effectivement, énorme succès, gros succès d'estime. Arrive Andromeda, qui est pas développé par la même équipe, où on va dans une autre galaxie. En fait, après le premier ou le deuxième, je sais plus, les différentes races qui se connaissent dans la galaxie de la Voie Lactée se disent, bon, est-ce que on va pouvoir réussir à vaincre cette menace qui nous menace? Et du coup, ils se disent, pour le cas où, on va envoyer des vaisseaux avec des dizaines de milliers d'individus cryogénisés vers la galaxie d'Andromède, et là-bas, ils vont se démerder pour recoloniser la galaxie. Et on espère que nous, on va survivre. Mais enfin, si on survit pas, eh ben, on a quand même cette équipe, cet effort de recolonisation. Et il y a donc parmi les humains de cette épopée, l'un des personnages qu'on va jouer, qui est en fait le fils du Pathfinder, la personne qui était censée guider tout le monde, guider son vaisseau. Et la promesse du truc, c'est de repartir la même ambiance, le même contexte, mais enfin quand même quelque chose d'extrêmement différent. Et moi, pour dire, toi, autant tu as été super fan de toute la trilogie, moi j'ai beaucoup aimé le 1, j'en ai souvent parlé dans l'émission, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Par contre, le 2 et le 3 m'ont perdu parce que je les ai trouvés beaucoup moins jeux de rôle et peu décevant au niveau du guide qu'on t'imposait. Dans le premier, j'avais vraiment l'impression que je pouvais aller un petit peu où je voulais, découvrir des choses, et dans les autres, c'était beaucoup plus jalonné, on va dire. À vrai dire, j'ai joué qu'un petit peu, mais justement parce que ça m'a perdu. Et ce que j'espérais avec Andromeda, c'était le retour à cet esprit vraiment jeu de rôle, exploration, découverte, vraiment l'aventure. Et j'ai l'impression, d'après les retours que j'ai, que cette promesse-là n'est pas vraiment tenue. Et du coup, je vais te poser la question, mais peut-être avant même de parler de ça, il y a la question des animations maladroites qui a beaucoup tourné sur le net avant la sortie, justement parce qu'il y avait une communication qui a été assez mal gérée, je trouve, par EA et BioWare, qui n'a pas lancé les reviews à temps, et du coup, les gens n'avaient rien à se mettre sous la dent, et donc ces animations vraiment très malheureuses sont devenues un petit peu le symbole de Mass Effect Andromeda. Donc peut-être la première question avant même de passer au substantiel, c'est est-ce
que... Moi, j'avais une correction à faire quand même.
Ouais, alors, mais ma question, et puis donne ta correction, mais la question, c'est est-ce que c'est aussi dramatique que ce qui a tourné sur Internet peut le laisser penser, et puis après, on avancera à des choses plus intéressantes.
Alors, les animations foireuses, il y en a quelques-unes, pas tant que ça. Et a priori, ça doit se déclencher, tu vois, vraiment que dans certains cas, parce qu'il y en a que moi, j'ai pas eu, par exemple.
Et les visages qui sont pas naturels.
Alors ça, par contre, les visages non expressifs plutôt. C'est pas tellement qu'ils sont pas naturels, parce que sur les aliens ça passe évidemment plus facilement, hein. Surtout sur un Turien qui est... ou même un Galarien, peu importe. Mais sur les extraterrestres qui ont des faces pas très humanoïdes, ça se passe plutôt bien.
Est-ce que tu penses que c'est parce
sur les
que
visages
justement...
humains que c'est raté quoi? Ça manque d'expression. Mais je sais pas si c'est lié au fait que...
L'Uncanny Valley qui fait que là, c'est suffisamment beau pour qu'on remarque plus les défauts. En même temps, j'ai vu des essais de fans de retravail du visage. Bah, ça va mieux quand même.
Oui, bien sûr. Après, la question, c'est
Est-ce que ça te gâche le jeu?
Non.
D'accord.
Non. Pour moi, ça gâche pas le jeu. Attendez, rappelez-vous, hein, on faisait des jeux de rôle où on lisait du texte. Hein. Donc là, tous les dialogues sont...
Oui, mais enfin, quand même.
Non, mais bien sûr. Mais bon,
et
voilà.
Et puis ta correction, tu voulais faire une correction?
Ouais, ma correction, c'est juste en termes de timeline. En fait, tu dis que les humains décident de partir quand les grands méchants arrivent. En fait, c'est pas tout à fait vrai. L'initiative Andromeda est fondée avant. C'est une initiative en fait qui est civile. C'est pas des militaires hein, à la base. C'est vraiment que des scientifiques et des civils qui se disent bon ben. Ok, l'humanité a fait sa place dans la Voie lactée et voilà, puisque c'est le moment l'alliance est fondée et tout ça, enfin quelques années après, une dizaine d'années après, les humains siègent au conseil de la citadelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les humains ont fait leur place, ils se disent maintenant on va essayer d'aller ailleurs. Et en gros. L'initiative est fondée avant le premier contact avec les Ged qui attaquent Eden Prime et tout ça. Par contre, effectivement, le premier départ des Arches vers Andromeda se passe en fait juste après le Mass Effect 2. D'accord. Ou en même temps en fait, pendant les événements. Voilà.
Excuse-moi, j'ai fait une erreur dans la chronologie du truc, effectivement.
Non, mais c'était... en fait, ils ont eu l'idée avant.
Oui,
la raison du départ n'est pas forcément liée au fait que Les guettes voilà, exactement. Donc c'est juste ça. Et ça a un peu d'importance parce que finalement, on n'y fait pas du tout allusion dans Andromeda.
D'accord.
Et c'est ce qui permet, je pense, aussi aux développeurs et puis aux créateurs d'Andromeda de se détacher complètement de la prélogie. En gros, on ne sait pas ce qui se passe, nous, dans la Voie lactée quand on joue à Andromeda.
Bien sûr, oui.
Voilà. Après, pour moi, ça gâche pas le jeu. Les doublages, certains sont bons, d'autres sont ratés, mais c'est comme toujours. Enfin, je veux dire, j'ai pas connu un jeu où 100% des doublages étaient réussis. Là, j'y joue en français, de temps en temps, je switch en anglais pour voir. Et autant en anglais qu'en français, c'est pas parfait. Et que ce soit la synchro labiale, bon là ça marche pas quoi. À un moment je me suis posé la question, est-ce que c'est lié au moteur du jeu Frostbite qu'ils auraient pas su exploiter dans les temps, en temps et en heure, enfin tu vois je sais pas.
Moi je pense que c'est lié au temps de développement, ils ont pas eu le temps de peaufiner les animes et les animations faciales quoi, ça me paraît ok. Une fois ces détails, si on peut les appeler des détails, évacués, si vous faites une fixation sur ces choses-là, bon bah effectivement vous n'allez pas réussir à passer outre, ok.
Mais donc Mass Effect 2 et 3, vous, mais même le premier avait des défauts hein, pendant les dialogues, des fois des personnages disparaissaient.
Oui, il y avait, mais ça choquait moins pour une raison ou une autre, mais ça choquait moins. Mais donc, au-delà de ça, passons aux choses sérieuses. Est-ce que le jeu est bon? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? T'en es à combien de temps, combien d'heures de jeu, juste pour à peu près?
D'heures, je dois être à une trentaine.
D'accord. D'accord.
Déjà, j'avais pris le early access, tu sais, pour avoir les 10 premières heures, machin. Bon, en gros, ça correspond plutôt à 3h30 de mission, hein. Pas plus que ça.
Mais alors du coup oui. Alors est-ce qu'il est bien, qualité, défaut, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? J'ai entendu que l'action était bien et le reste moins.
Ouais, alors par contre l'action est assez folle. On a plus l'impression d'être dans un Titanfall, tu vois, ou un Gears.
Ah oui, à ce point-là. Digne d'un jeu d'action, d'un FPS.
Ah oui, il y a énormément de... Enfin,
TPS,
un TPS plutôt.
En l'occurrence, ouais.
Ouais. Et il y a énormément de verticalité au combat grâce à l'ajout du jetpack. Qui permet des trucs assez sympas. Et alors, par contre, il y a une mécanique qui a été retirée qui, moi, me chagrine. C'est le fait qu'on puisse plus mettre l'action en pause pour demander à ses coéquipiers, par exemple, de faire une attaque synchro. Genre,
alors, je crois qu'on peut, mais que c'est très bien caché.
Ah, ok, parce que moi, j'ai pas réussi à le trouver.
Ouais. Je crois, je suis pas sûr à 100%. Mais...
Ça doit être tellement bien caché. Pourtant, j'ai cherché dans les options, mais j'ai pas trouvé. Alors, ça doit porter un nom à la noix. Ouais. Mais pas réussi à le faire. Donc, du coup, bon, j'ai abandonné l'idée. Donc, tant pis. Quand je vois mes potes qui font une singularité ou un truc, moi, j'envoie un tir percussif en me disant c'est bon, c'est le combo. Mais.
C'est fini, pardon. Je vérifie. Visiblement,
ouais,
il y en a
moi,
pas.
Pour moi, il me semble que c'est pas, possible. Mmh. Enfin, j'ai pas trouvé, en tout cas.
D'accord.
Donc, voilà, pas de pause active. Donc, ça, c'était un peu chiant. Il y a d'autres trucs assez malins, en particulier, bon, on le découvre assez vite dans le jeu, donc je spoil pas grand chose, mais on a la possibilité de changer complètement son personnage, c'est-à-dire passer du soldat au biotique.
Oui, il y a plus de classe,
sniper.
Quoi. C'est pas qu'on choisit au début,
en fait, non,
et puis.
Il y a des classes, mais tu peux les changer en live. Tu
oui,
peux te mettre des trucs en favori.
Puis...
Tu te crées tes propres templates. Donc, tu montes
oui,
les compétences.
Oui, c'est-à-dire qu'on choisit pas au début et puis
ça.
On peut plus
non.
en sortir. C'est
voilà,
pas, ouais.
Exactement. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup, ça, si au bout de, tu vois, si tu t'es dit bon, je vais faire un soldat et puis au bout d'un moment t'en as marre, tu te dis bon, j'ai encore 100 heures de jeu devant moi à en changer. Voilà, bon. Donc ça c'est plutôt cool. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est c'est bête, hein, mais la conduite du nomade, donc c'est le nouveau Mako, hein, du premier.
Ouais, le véhicule terrestre.
Est quand même vachement plus sympa.
Brochard.
Et là, on sent qu'il y a des gens de chez EA qui ont fait des jeux de voiture avant. Par exemple, ils glissent sur la glace. Enfin, tu vois, tu sens que la conduite est quand même moins hasardeuse.
Agréable, ouais.
Que le premier.
Le Mako du premier. Ouais,
voilà. Et c'est important parce que c'est pas un monde, ce sont pas des mondes ouverts, les planètes, hein, sur lesquelles on peut se poser. Alors, on se pose pas sur toutes, mais sur pas mal. Mais par contre, c'est très très grand. En gros, il faut imaginer ça un peu comme les zones dans Dragon Age 3, dans Inquisition. D'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre ce Mass Effect et Dragon Age Inquisition. ne serait-ce qu'au niveau du craft, parce qu'il y a énormément de craft, ce qu'il n'y avait pas dans les précédents Mass Effect. Il y avait juste du mode d'armes vite fait. Là, on est vraiment à récolter des ressources pour upgrader ses armes et carrément changer ses armes. Il y a 5 niveaux, je crois, d'armes différentes.
Mais j'ai entendu que sur ces détails, il y avait des problèmes du genre... que dans nombreux systèmes, il y avait des problèmes, comme par exemple le fait que tu peux pas voir ce que tu vas crafter avant de l'avoir crafté. Genre, t'as pas d'informations là-dessus, c'est assez gênant, handicapant pour
Des fois, c'est un peu random, quoi. Mmh. Là où c'est un peu plus gênant, c'est que des fois, c'est même pas logique. C'est-à-dire que, y a certains upgrades qui vont utiliser des matériaux, tu ne comprends pas pourquoi, en fait.
En fait, ils ont tellement suivi Dragon Age qu'ils utilisent genre de la salse pareille et du...
c'est presque ça. J'exagère, mais... Mais non, c'est surtout pour les upgrades de véhicules qui utilisent des ressources au lieu d'utiliser, je sais pas, des matériaux de construction. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Et puis surtout, il y a des upgrades qui, sérieusement, sont limite inutiles. Surtout les upgrades de véhicules, parfois.
On tourne autour du pot, là. Est-ce qu'il est bien?
Écoute, moi, j'aime.
Réponse diplomatique. C'est pas la réponse à la question, mais
je pense que Andromeda,
mais c'est peut-être la bonne.
Non, mais je pense qu'Andromeda, c'est le genre de jeu où tu acceptes de te mettre à la place du personnage et de rentrer dans une galaxie que tu connais pas et tu essaies de faire preuve d'empathie et d'imaginer comment pourrait se passer. Alors, il y a des choses pas logiques, parce que forcément, c'est un peu comme au cinéma quand tu regardes les Avengers, tout n'est pas logique. Mais tu essaies de t'imaginer à la place de ces gars-là qui arrivent sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Franchement, le premier contact, quand tu arrives sur la première planète, c'est waouh. C'est waouh parce que la planète est belle, le décor est assez incroyable, c'est beau.
Ah, c'est marrant, moi j'ai entendu justement que le début,
l'essai
était un peu faible, quoi.
Ben non, moi je trouve que c'est pas mal, surtout pour les gens qui n'ont jamais joué à Mass Effect. Et en fait, il faut se dire qu'on est ailleurs, dans une autre histoire, et qu'il faut oublier Shepard. Il est à des centaines de milliards d'années-lumière de là. Oublions-le.
Mais
j'exagère, mais
je comprends.
Oublions-le.
Mais
en fait, on se retrouve face à un mec qui a dormi pendant... on est dans la place d'un mec qui a dormi pendant 600 ans, sur une planète incroyable. Je joue avec un casque 7.1. Le sound design, alors là, j'ai lu aucun test d'ailleurs qui disait que le sound design était nul. Au contraire, il est plutôt encensé. Le sound design est complètement ouf. C'est-à-dire que t'as l'impression que d'entendre la végétation, t'as envie de te retourner à chaque bruit que tu entends et ainsi de suite. Et pour ça, pour le dépaysement en tout cas, ben, je trouve qu'il remplit bien son contrat. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être l'explorateur qui va à l'autre bout de la galaxie ou dans une nouvelle galaxie et qui va faire sa mission de mec qui est là pour essayer de coloniser le truc. Je trouve qu'il remplit bien son pari et c'est ce sur quoi moi je l'attendais. Donc, je suis satisfait et j'aime ce jeu. Après, je peux comprendre que des gens lui excusent aucun bug. Que des gens trouvent que l'histoire est trop est déjà vue ou est basique ou mais il y a des moments t'as l'impression d'être dans Interstellar et dans d'autres t'as l'impression d'être dans Halo, enfin c'est un mélange de plein de trucs et c'est vrai que est-ce qu'à la fin mélanger plein de choses c'est bien et ça fait quelque chose de bien, je ne sais pas. En tout cas moi je trouve qu'il remplit son pari. Après je suis d'accord, c'est pas parfait, mais encore une fois Mass Effect Andromeda c'est le genre de jeu où soit tu l'aimes au point de pouvoir en excuser ses défauts, soit tu ne l'aimes pas et du coup tu ne lui excuseras rien. Et je pense que c'est vraiment ça. Et pour les gens qui sont fans de la licence, les gens sont divisés. C'est-à-dire que des gens qui sont très très fans disent on a perdu en quelque sorte un esprit Mass Effect qui existait, où les décisions avaient un vrai impact et tout ça. Parce que c'est vrai que là jusqu'à présent, après quelques heures de jeu, j'ai pas l'impression d'avoir pris des décisions qui ont changé la face de l'histoire. Alors que, contrairement au 2 et au 3, même si dans les faits, on le sait, tout est scripté, mais on avait vraiment la sensation qu'il se passait quelque chose, que nos décisions influaient sur l'univers, même si c'était pas vrai, mais influaient sur l'univers. Au moins, on te le faisait croire. Là, par moment, c'est vrai que des lignes de dialogue, des choix que tu fais, tu vois pas l'impact que ça peut avoir ou le sentiment que toi tu veux faire passer, parce qu'il y a 4 sentiments maintenant comme dans Inquisition.
Donc on peut des réponses, c'est des sentiments.
Ouais, alors en fait, il y a quand même des réponses hein, associées au sentiment, mais en gros, c'est est-ce que tu réagis avec logique, est-ce que tu réagis plutôt de façon instinctive ou de façon plutôt, je sais plus ce que c'est les quatre d'ailleurs, mais il y a quatre symboles D'accord. en gros et voilà, et on choisit son truc comme ça.
Bon. Mais du coup, moi, on m'a dit aussi à ce propos que c'était quand même assez mal écrit. Qu'il y avait des moments où c'était malhabile, tu vois, et qu'il y avait
Alors, il y a des facilités scénaristiques qui sont,
Non, mais je veux dire, même dans les réponses, genre, à un moment, il rigole tout le temps, tu vois, il y a aucun moment où il est un peu grave, il ou elle d'ailleurs, mais tu vois, ce genre de truc que
par moment, t'as l'impression que Ryder est pas sérieux.
Mais il peut y avoir des personnages pas sérieux. Là, le problème, c'est que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, tu vois, c'est genre.
Oui. Mais je suis d'accord. Par moment, c'est un peu maladroit, soit mal écrit, soit peut-être aussi mal interprété. C'est très bête, hein. Mais une même phrase dite sur deux tons différents, elles ne veulent pas dire la même chose. Tu sais pas si c'est ironique ou pas. Enfin, du coup, des fois, tu te poses la question est-ce que c'est un problème de doublage ou est-ce que c'est juste que c'est complètement débile comme réponse, tu vois. Et ou est-ce qu'il est ironique dans sa réponse et tout ça. Après, il faut voir un truc, les riders sont jeunes.
Ils ont genre 23 ans, un truc comme
ça. Ouais, c'est ça. Sont jeunes, se retrouvent catapultés dans un truc assez vite qu'ils ne maîtrisent pas. Et il faut faire illusion, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as la pression de toute la colonie humaine qui te dit, en gros, il faut que tu y arrives. Et donc, des fois, tu sens que le personnage est fébrile face à certaines décisions que toi, tu prends, d'ailleurs. Et parfois, les dialogues sont surréalistes. Et alors, tu sais pas si c'est parce que ils ont voulu... Enfin, peut-être qu'ils ont voulu faire passer un message par le fait que le personnage était jeune et que, du coup, il pouvait aussi avoir des réponses un peu à la noix. Ou est-ce que vraiment
c'est mal écrit,
quoi. Voilà. Là, je ne saurais dire.
Alors, autre question, du coup...
Faudrait revoir les scènes en anglais et en français pour voir si ça veut dire la même chose ou pas.
Autre question, du coup. Moi, une autre des craintes que j'avais pour ce jeu, c'était ce que je vais appeler, au risque de me faire engueuler, voire troller, l'effet Star Trek. C'est-à-dire l'effet où, on a la promesse d'une nouvelle galaxie et de nouvelles races, de nouvelles rencontres, de nouveaux trucs incroyables. Et en fait, on a juste des gens, des humains avec des têtes différentes, tu vois. Les aliens incroyables, c'est ça. Et voilà. Et il y a d'autres planètes qui ressemblent. Alors, il y a la planète du désert, il y a la planète de la jungle, il y a la planète de machin.
De la neige.
Voilà, c'est ça. Et du coup, cette promesse d'exploration et d'inconnu est moins
eh bien,
réalisée.
En fait,
en fait, pour te donner un exemple de, je sais plus qui c'était, mais quelqu'un avait donné un excellent exemple en fait de ce dont je voulais dire, de ce dont
No
je voulais
Man's
parler.
Sky, non,
non, pas du tout. C'est dans un autre podcast que j'écoutais quelqu'un qui disait mais on aurait pu avoir des races incroyables, genre des trucs qui ne communiquent que par la pensée, des trucs insectoïdes avec des une seule pensée et tu vois une sorte de swarm. Enfin, ça aurait pas été incroyable non plus.
On avait déjà vu avec les guettes. Hein.
Bien sûr. Mais tu vois ce genre de choses, des sociétés complètement différentes, des trucs avec trois ou quatre genres au lieu de deux. Tu vois des races avec trois ou quatre genres au lieu de deux, et en fait non, il y a que c'est des humanoïdes avec des têtes différentes, avec des tentacules au lieu des cheveux.
Ça c'est un parti pris artistique de dire vu qu'on recherche des planètes proches de celles de la Terre, la vie qui va s'y développer dessus sera pas forcément très différente. Tu vois, si tu...
Ça me paraît un peu facile.
Non, mais bien sûr. Mais après, ça peut être aussi, on n'a pas le temps de faire 10 races extraterrestres avec des trucs bizarres. Donc, on va tous les faire humanoïdes.
Tu me confirmes que c'est quand même un petit peu,
Dans les faits, il y a vraiment trois races, une un peu roboïde. Enfin, c'est des robots, quoi. Des espèces de trucs, des robots. Donc, eux, ils ont des looks un peu chelous, à la limite, on a vu ça un peu dans Borderlands, tu vois. On a les Kert, qui est le grand la grande race de méchants qu'on voit dès le début du jeu, qui eux sont... C'est, à la limite, ils se rapprochent.
Non, mais à la limite, les spécificités des races,
c'est pas
tellement important.
Je réfléchis s'ils ont un truc bizarre, mais... Non, ils ont tendance aussi à avoir un langage parlé, tout ça.
Ouais. Donc, enfin, pour moi, bon, au-delà des détails spécifiques, c'est est-ce que cet esprit d'exploration d'une autre, enfin, tu vois, quand tu dis c'est une autre galaxie, quoi. Mm-hmm.
Tu trouves
incroyable.
Tu trouves des bestioles différentes et tout ça, mais en termes de race intelligente.
Mais au-delà des races qu'elles sont intelligentes ou pas, est-ce que tu as cette sensation de dépaysement, genre putain j'ai jamais vu un truc comme ça quoi, ou je sais pas la sensation, je vais prendre un exemple qui est peut-être mal choisi, mais
pas assez.
D'accord,
voilà, c'est-à-dire que quand on voit le nombre d'espèces sur Terre, on se dit quand même pourquoi est-ce qu'il y a que 4 ou 5
animaux dans toute la galaxie,
animaux, non pas forcément dans toute la galaxie mais sur cette planète là pourquoi est-ce qu'il y a genre les grosses baleines volantes, les bestioles qui se planquent dans les fourrés et tu vois, enfin ouais. Ça c'est un peu limité quoi, ça je suis assez d'accord, ça manque un peu de fun.
Bon, j'ai l'impression d'être hyper
non,
négatif sur tout ça. En fait, c'est un petit peu la suite facile, quoi. J'ai l'impression que c'est genre, bon, voilà, c'est la suite
mais
paresseuse.
Le problème, c'est que c'est pas une suite, quoi, en fait.
Non, d'accord, c'est mais c'est la même formule, c'est un spin-off,
non, mais
effectivement,
c'est un spin-off,
mais...
Voilà.
Bon, écoute, je vais arrêter
facile.
D'être le... Ouais,
non,
le
mais
spin-off
je suis
facile.
Non, mais,
je vais arrêter d'être...
C'est ce que je disais
Johnny,
tout à l'heure. Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que soit ce qui tu t'attardes à l'histoire et, encore une fois... au fait de te vraiment ressentir investi du truc et de comme dans un jeu de rôle en fait, c'est soit tu rentres dans regarde bien hein, mais quand tu fais une partie de jeu de rôle, si tu rentres pas dans l'univers et dans ton personnage et tout ça, tu l'apprécies pas. Et tu auras un milliard de critiques en disant ouais mais pourquoi tu nous as pas décrit ça, dans la forêt il devrait y avoir tel truc et tel machin, enfin tu vois, si le maître de jeu est pas bon tu t'amuses pas, et puis même si toi tu te rentres pas dans ton personnage, tu t'amuses pas. Bah là c'est un peu pareil et c'est un peu le problème qu'a ce jeu, c'est-à-dire soit on accroche tout de suite à l'enjeu qu'on veut nous imposer et auquel cas ça marche avec des limites mais ça marche. Soit on prend ça comme un jeu vidéo. On reste bien extérieur à tout ça et on fait pan-pan quand on tire sur les méchants et voilà, on s'attarde pas trop au reste et auquel cas, bah, on se fait chier, quoi. Il vaut mieux acheter autre chose.
D'accord. Ok, bon, en tout cas, toi, ça te plaît très clairement. Tu y as passé plusieurs dizaines d'heures déjà.
Ouais, c'est pas fini.
Oui, et c'est pour toi, ça fonctionne. Et je pense que ça rentre dans, enfin, d'après tout ce que je comprends. Bon, comme tu disais, c'est le spin-off facile, donc ça devrait plaire aux super fans de Mass Effect. Peut-être moins à ceux qui étaient pas convaincus par la série déjà,
pas forcément super fans de Mass Effect. Si vous avez aimé Dragon Age Inquisition, parce que dans Dragon Age Inquisition, il y avait quand même beaucoup de parties où on explorait le monde, on allait chercher des trucs, on fermait des portes, on récupérait des ressources et tout ça, ben il y a la même chose là. C'est-à-dire qu'on doit explorer des planètes pour récupérer des choses qu'on envoie dans sa station spatiale, pour réveiller d'autres colons et ainsi de suite. Ben c'est ça. Voilà.
D'accord.
Il y a une grosse partie qui est de ça. Il y a un peu de farming, bon, c'est un peu chiant. Mais il y a
Et puis l'esprit, bah, comme tu le disais, la sorte de style space opéra qui est bien retranscrit.
Voilà.
Si on aime ce genre de truc, bah voilà.
Après, j'ai entendu des gens qui disaient que la musique était pas incroyable. Moi, je la trouve plutôt pas mal.
Non, mais au-delà, l'ambiance, bah voilà, on est un explorateur dans l'espace. Il y a des races de toutes les couleurs et de toutes les machins. Bon, bah. Puis on peut avoir du sexe avec les aliens, des relations amoureuses.
C'est ça le plus intéressant surtout.
Voilà, bien sûr. Bon, ok, bah écoute, merci pour cette description. Désolé de t'avoir interrompu plus d'une fois, mais je crois que ça nous aura donné un bon aperçu d'ensemble du titre, qui malgré tout, sur lequel malgré tout, tu restes quand même très positif.
Mais pas de souci.
Bon, bah continuons avec le fameux Nintendo Corner après cette petite demi-heure de Mass Effect pour peut-être un petit peu plus rapidement vous donner des nouvelles de la Switch. Alors on a eu des rapports selon lesquels une semaine après la sortie ils avaient vendu 1,5 million de consoles selon des analystes. Mais ça me permet juste d'introduire le fait que, qui est beaucoup plus intéressant, que selon les rumeurs du Wall Street Journal, qui est quand même pas la publication la moins fiable de la Terre, la production de Switch sur l'année fiscale 2017, donc avril 2017 à mars 2018. Donc cette production de consoles a été doublée par Nintendo, en passant de 8 millions à 16 millions d'unités, ce qui confirmerait donc l'excellent démarrage de la console, qui encore une fois est un essai à transformer, mais au moins l'essai est là. Et il se passe, enfin les premières semaines, je vais arrêter avec le avec l'analogie de rugby parce que je vais très vite me ridiculiser. En tout cas, les premières semaines, ça se confirme, ça se passe bien. 16 millions sur l'année, bon, ils sont pas obligés d'en vendre 16 millions dans l'année, mais c'est quand même une grosse commande de production, surtout quand on se souvient que la Wii U avait vendu 13 millions sur toute sa production. Production est maintenant terminée. Donc voilà, des bonnes, des bons signes pour. Oui, alors c'est ce qu'on disait avant le début de l'émission. T'as pas encore la tienne, ça veut dire que tu hésites ou que tu vas l'avoir ou que qu'est-ce que.
En fait, ouais, j'hésite. J'ai beaucoup de choses qui me disent, allez, vas-y. Et en même temps, j'y ai joué. Et je me dis que pour le moment, avec le line-up et tout ça, elle risque de passer son temps à éteindre, quoi.
Bah, moi, ce que je me dis... Alors, je viens de finir Zelda il y a 2 jours. Finir, entre guillemets, hein, parce que Zelda... Mm-hmm. j'ai fini la quête principale. Mais, mais voilà, au-delà de Zelda, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y aura Mario Kart dans quelques semaines maintenant, mais bon... Voilà.
J'ai envie de voir Splatoon 2, ce que ça peut donner. Mais...
Alors, j'ai fait le test de Splatoon 2. Il y avait un test là ce week-end. J'ai fait un petit peu le test. Alors, c'est vraiment Splatoon... Ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 Prime, tu sais, comme Street Fighter 2 Prime à l'époque.
D'accord.
Je sais pas d'où c'est le 2, quoi. C'est vraiment... Enfin, pour moi, qui n'ai pas énormément joué au 1, j'ai joué quelques heures.
Tu vois pas la différence.
Je vois pas la différence. Alors oui, il y a une nouvelle arme ou deux. Bon... Voilà, ils auraient pu l'appeler Splatoon 1 Deluxe.
Oh, c'est le genre de jeu auquel je pourrais jouer avec mon fils, tu vois. Donc,
oui, mais celui-là, il arrive cet été. Alors,
bah oui.
Ce que je dis souvent, c'est, à mon sens, c'est si vous n'êtes pas déjà convaincu, c'est pas la peine de vous lancer. Ceci dit, pour tempérer un petit peu ce propos, là, elle va pas baisser de prix tout de suite. Hein.
Non.
Donc, si vous pensez que à Noël, avec
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mario, avec Splatoon, avec Mario Kart et avec Zelda, ça vous fera un truc où vous serez convaincu de toute façon de l'acheter. Je pense que vu comment ça se vend aujourd'hui, à moins qu'il y ait un changement, les packs seront à, allez, on va dire 350€ avec Mario et pas, ça va pas descendre vraiment en dessous, ou peut-être 10-20€, tu vois. Donc, si c'est une question, j'attends pour la payer moins cher.
Ah non,
peut-être que ça vaut le coup de l'acheter maintenant. Enfin, le coup. Oui, elle passera peut-être du temps éteinte, mais tu vas quand même apprécier certains trucs maintenant. Si c'est... Oui, c'est ça. Donc, si c'est une question de prix, ça vaut pas vraiment le coup d'attendre, à mon sens, parce que... Enfin, de prix à la fin de l'année. Hein. Je pense qu'il y aura pas une énorme réduction. Maintenant, si tu dis, oui, je suis pas sûr de la vouloir tout court, là, oui, il vaut mieux attendre, parce qu'il faut attendre de se faire convaincre. Donc
Moi,
toi,
j'attends
tu dis,
le jeu, le déclic, le truc qui va faire que je vais l'acheter, parce que ça, pour le coup, ça sera ça sera celle qui va trôner dans mon salon quand elle sera branchée et avec lequel on jouera en famille. Donc du coup, j'attends de voir le jeu qui va et me sort pas One to Switch, hein, parce que
non, ne compte pas sur moi pour ça. Bah, écoute,
j'ai joué, et c'est
Splatoon, Mario Kart, et puis si tu veux, l'autre truc qui peut te faire faire le déclic, c'est comme on le disait là, dans l'épisode précédent où on a longuement parlé de Zelda. Donc si vous voulez écouter nos avis sur Zelda, allez écouter l'épisode précédent, c'est ça vaut vraiment le coup. Même si vous en avez déjà beaucoup entendu parler, L'autre truc, c'est le fait que le concept fonctionne. C'est-à-dire que c'est un vrai plus pour cette console de pouvoir la trimballer un petit peu partout. Alors, de la trimballer, tu vois, sur les toilettes, dans ton lit, ou si tu pars en week-end, ou si t'as du trajet pour le boulot. Bon, toi, c'est pas le cas pour le trajet pour le boulot. Mais dans ce genre de configuration, ça peut être un petit peu comme un jeu. C'est-à-dire que tu dis, bon, il y a Zelda, d'autres trucs qui arrivent, des jeux indés qui sont sympas. Le fait que je puisse la prendre avec moi, c'est... ça qui peut provoquer le déclic, parce que ça fonctionne, très clairement. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte.
Ok, ok.
Bah tu nous diras ce que tu auras fini par décider. Déjà, il faut en trouver, c'est pas évident.
Ouais, ouais.
Le fameux problème des Joy-Con de gauche qui se déconnectaient aurait été résolu donc par Nintendo, et on peut leur envoyer notre Joy-Con pour le faire réparer, une sorte de petite mousse conductrice.
Et faire réparer le problème qui n'est pas un problème, en fait.
Bon, c'est un problème de fabrication dans certaines unités qui n'est pas un problème généralisé, on va dire. Et effectivement, okay. Il y a plusieurs personnes, plus je pense que ce qu'ils veulent laisser entendre, qui ont le problème, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai le problème, il va falloir que je l'envoie parce que, je sais pas, on verra avec le service client. Mais oui, moi, si je suis à 3 mètres, ça y est, elle est, le left Joy-Con, il est, là, c'est, mais bon, j'ai acheté un pad pro, donc, en fait, il est toujours connecté, ou alors à 1 mètre, tu vois, donc, pas la fin du monde, quoi. Mais oui, c'est chiant. Square Enix a annoncé une compilation de Secret of Mana sur Switch, donc il y a encore des petits jeux comme ça qui arrivent. Enfin, Secret of Mana, c'est très vieux, hein, donc voilà, ouais. C'est des jeux qui étaient à 800 yens sur la console virtuelle. Là, ils te le vendent
cool,
un petit
Secret
peu plus
of
cher.
Mana.
Ah oui, ça amène des souvenirs. Et je crois qu'il y en a un des trois qui a jamais arrivé sur console virtuelle. Mais bon, ça sera au Japon, on sait pas quand ça arrivera ici. Bloodstained, le projet Kickstarter de Igavania, une sorte de Castlevania sans être Castlevania, qui a été annulé sur Wii U, mais qui arrivera sur Switch. Bon, moi ça me fait plaisir, je l'avais backé. Quoi d'autre? Finir sur Nintendo, Tatsumi Kimishima, le président, a admis que Super Mario Run avait ramené moins d'argent qu'il n'espérait, mais qu'il préférait quand même le modèle de paiement unique au modèle free-to-play. Et que donc Fire Emblem Heroes reste une exception dans
un paywall,
la manière dont ils considèrent de paywall plutôt que de freemium, enfin de free-to-play. Donc Fire Emblem Heroes est une exception dans leur line-up mobile.
Bon, après, ils allaient peut-être passer $10. Hein.
Peut-être qu'ils... Oui, mais bon, c'est Mario. Ils pourront réduire le prix ensuite, mais maintenant, le coup de tonnerre du lancement est passé. Moi, j'ai du mal à les voir continuer vraiment avec les... Je sais qu'ils préfèrent ce modèle, et moi aussi, je le préfère. Enfin bon, on verra au prochain Investors Call s'ils vont annoncer l'argent qu'a fait Fire Emblem, si ça a fait beaucoup plus... Bon, il y a un moment, tu vas succomber aux sirènes, quoi, aux sirènes. Mais bon, on verra. Et
ou les actionnaires vont te faire succomber.
Impossible aussi. Mais en même temps, ils ont, le succès de la Switch se confirme, ils ont quand même une, ils sont dans une position de force dans laquelle ils n'étaient pas l'année dernière avec les problèmes de la Wii U. Donc bon, en même temps, c'est compliqué de se dire s'il y en a un qui rapporte 200 millions et l'autre qui a rapporté 40. Bon.
Bien sûr.
C'est dur. Et puis pour finir sur Nintendo, l'histoire absolument merveilleuse de ce développeur de Zelda. Je ne sais pas si tu as vu passer cette news sur Cory Bunnell. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les credits, le générique de fin.
Générique de fin, ouais.
Voilà, de Zelda. Il y a très peu de noms qui ne sont pas des noms japonais. Et l'un d'entre eux s'appelle Cory Bunnell, qui a programmé les animaux sauvages, les animaux de Zelda, en fait. Lui, il a fait le comportement des animaux de Zelda. Et donc les gens se sont dit mais c'est qui ce gaijin, tu vois, qui est dans le générique de Zelda. Ils sont allés chercher un petit peu sur internet et en fait ils ont trouvé un article dans un forum qui date de 2007.
Ah oui, c'est 2007. Même lui qui a posté, en fait.
C'est ça. Et en fait, c'est lui. Alors, on imagine que c'est lui, hein. Mais il a posté un article sur un forum, où il dit, bon, voilà, je viens de finir mon école, mon lycée. Et j'ai pas encore été pris dans une université. Je viens juste de finir là. Et mon rêve, c'est d'aller au Japon et de travailler pour Nintendo. Et bon, je sais que c'est un rêve un petit peu fou et que c'est sans doute irréalisable, mais voilà, je vous en parle parce que il faut quand même avoir des rêves fous et puis on verra ce qui se passe, tu vois. Il parle de d'école
ouais,
de langue,
demande des conseils après. Ouais.
Voilà, exactement. Et du coup, bah oui, c'est ça qui est fou, quoi. 2007, 2017, 10 ans plus tard, et bah visiblement, c'est lui. Qui travaille chez Nintendo, non seulement chez Nintendo, mais sur Zelda, sur l'un des meilleurs Zelda depuis longtemps. Et c'est vraiment genre l'histoire de l'inspiration incroyable, quoi. C'est genre, même si tes rêves sont complètement fous, bah vas-y, fonce, et puis peut-être que tu réussiras, quoi. J'ai trouvé ça absolument touchant et vraiment émouvant, quoi, comme histoire. Donc, c'est l'histoire de Cory Bunnell. Qui, en 2007, se demandait comment il pourrait aller vivre au Japon avec le rêve de travailler pour Nintendo. Donc toi-même, auditeur, comme je le dis souvent, il faut suivre tes rêves, il faut essayer quelque chose, parce que quand tu seras plus vieux, auditeur, tu le regretteras si tu ne l'as pas fait. Et vraiment, je le dis souvent, et c'est quelque chose dont je pense que c'est très important, surtout quand on est jeune. Surtout quand on finit, bon, peut-être pas le lycée, soyez un petit peu plus sérieux, finissez l'université, mais après l'université, faites des trucs de fou, quoi. Allez-y, faites voyager, réalisez vos envies, parce que après, quand vous aurez, bah, comme Cédric, deux enfants et un chien et un chat.
Je continue, hein.
Bah, il y aura, oui, mais toi, tu joues à Mass Effect, certes, mais tu as quand même les enfants. C'est difficile d'aller, de tout balancer et d'aller vivre au Japon, tu vois.
Ah, j'ai failli.
T'as failli. Oui, mais bon, je comprends. Mais bon, c'est quand même plus facile, tu vois, t'as aucune excuse. Quand t'as 23 ans, 24 ans, t'as aucune excuse pas le faire. Aller partir un an, faire un truc débile, allez-y, quoi. Et oui, il y aura des bonnes raisons de pas le faire, mais c'est ce que je dis généralement, et là, c'est Life Coach Patrick, quoi. Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Toujours. Si vous cherchez une bonne raison, vous la trouverez.
Oui, toujours.
Mais... Bon, alors dans 90% des cas, on va dire, il faut, à mon avis, il faut se forcer un petit peu. Et puis bon, il y a 10% de cas où malheureusement, bah, on peut pas pour différentes raisons et différentes circonstances. Mais essayez au moins. Voilà. Et merci à Cory Bunnell d'avoir réalisé son rêve incroyable. Bon, c'est terminé le Nintendo Corner, et puis on continue avec quelques autres news. Est-ce que tu étais un fan de Destiny, Cédric? Je me souviens plus.
Alors, fan non, mais je l'ai. J'y ai joué un petit peu, mais je suis pas arrivé au bout du tout, j'ai pas suivi du tout. Mais je l'ai. C'est un des jeux que je suis sous mon coude et que je reprends quand j'ai rien d'autre à faire, en fait. C'est très bizarre, hein, mais j'ai pas réussi à accrocher.
Ouais. Bah écoute, moi j'avais vraiment accroché.
Oui, oui.
Tu t'en souviens peut-être.
Oui, je m'en souviens, oui.
Et les auditeurs, je pense qu'ils s'en souviennent peut-être avec douleur. comme j'ai eu ma période Overwatch, j'ai eu ma période Destiny où je ne parlais que de ça.
Moi, je continue à jouer Overwatch quand même.
Oui, ah bah moi aussi. J'ai plus joué à Destiny depuis un an, mais bon, on s'en souvient, de Taken King était vraiment très très bon. Bref, Destiny 2 a été annoncé enfin. Bon, en même temps, il y avait eu leak deux jours avant, donc l'annonce c'était un petit peu, c'était un tweet en même temps avec Destiny 2, donc ça fait un petit peu plouf. Mais on sait tellement qu'il va arriver, on sait qu'il va arriver en septembre, on sait plein de choses sur Destiny 2. Donc voilà, c'est juste que maintenant c'est officiel et puis voilà, c'est tout. Mais ouais. il n'empêche Destiny, moi c'est en fait, il y avait tellement de qualités au 1 qui ont été cachées par les attentes qu'on avait par rapport à ce titre.
Ouais.
J'espère que le 2 réussira à réaliser les promesses du premier, mais en même temps, j'espère pas que ça sera genre l'immense MMO où tout le monde va pouvoir. J'espère pas que ça sera un MMO. J'espère qu'il va raffiner la formule du 1, peut-être l'étendre un petit peu avec une aventure en solo qui touchera, enfin qui sera une aventure en solo et pas une ânerie sans nom. mais au-delà de ça, moi, j'espère juste qu'ils vont continuer à faire du Destiny, quoi, pas autre chose. Donc,
bah, on verra.
On verra. Tu l'attends, toi, ou moyen?
Bah écoute, oui, parce que même si je suis pas arrivé au bout du premier, voilà, ça fait partie des univers qui sont plutôt cool.
C'est vrai que c'est un petit peu space opéra mystérieux, ouais, on va dire, mais quand même. Donc ça te parle.
Ouais, mais bien sûr. Et pour te dire, moi, j'abandonne pas l'idée d'arriver au bout de Destiny le premier. Hein. C'est juste vraiment il faut être dans de bonnes conditions, tu vois.
Ah, t'as pas fini, quand tu dis d'arriver au bout, t'es pas niveau, c'est quoi, 30 ou 40, je sais plus.
Non.
Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc t'as pas vraiment joué à Destiny, en fait.
Non, j'ai commencé.
D'accord,
voilà.
Oui. Effectivement, oui. Oui, non, parce que Destiny, c'est comme Diablo, hein. C'est à la fin que ça commence.
En fait, j'ai un problème. Ouais, bien sûr.
T'as un problème, pardon?
Non, moi, j'ai un problème avec ce genre de jeu, à partir du moment où, je sais pas comment expliquer ça, tu sais, c'est ces jeux qui sont hybrides, qui sont pas MMO et qui sont pas qui sont instanciés et je sais pas, j'ai un problème avec ça.
Ouais, genre t'as un petit espace social et puis après tout le monde part dans son instance, ça te parle pas.
Et ça me parle pas trop, ouais.
Oui, bon bah là pour ça le me coup cause Destiny, des problèmes, c'est pile voilà. Ça quoi.
Mais je sais, c'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre. Ouais. Et tu vois The Division que j'ai bien aimé, ben j'ai pareil, au bout d'un moment, j'ai lâché parce que ben
Donc t'as besoin que ça soit tout l'un ou tout l'autre.
La cohérence d'un univers, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je voyais pas la cohérence d'un univers. Autant par contre, tu vois, j'ai adoré Guild Wars, qui pourtant était vraiment typiquement dans le truc instantané.
Ça tire plus vers le MMO quand même.
Mais qui tirait plus vers le MMO, exactement. Ouais. Mais il y avait un côté qui était plus assumé, peut-être. Je sais pas, mais bon, voilà. Bref.
Alors écoute, peut-être que la rumeur suivante va te convaincre. Est-ce que tu as eu à un moment une période Call of Duty?
Alors pas du tout.
Ah merde. Bon. Alors il semblerait que après Battlefield 1 qui soit allé à la première guerre mondiale, ouais, Call of Duty revienne vers la deuxième guerre mondiale.
Ça c'est faux parce que j'ai fait le premier Call of Duty donc.
Ah le tout premier, pas Modern Warfare hein.
Non, pas Modern Warfare.
Ah oui d'accord. Le tout premier si je ne m'abuse c'était Call of Duty qui faisait Stalingrad en fait.
Ouais c'est
c'était
ça.
C'était une scène absolument incroyable d'une violence inouïe et c'était Medal of Honor. C'était ça, ouais. C'était Medal of Honor qui faisait le débarquement et Call of Duty qui faisait Stalingrad, je crois, hein, si je ne me
trompe. Ouais, je crois que c'est ça.
Les deux étaient...
Bah, j'avais fait les deux, à l'époque.
Ouais. Bon, bah, oui, peut-être. En même temps, je suis pas ouais, ayant lâché Call of Duty depuis un moment, je suis pas convaincu que c'est ça qui me fera revenir.
Ouais, mais après, ça fait longtemps qu'on a pas tapé sur des nazis, alors.
Oui, c'est peut-être l'occasion.
C'est peut-être l'occasion de s'y remettre.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que en même temps, après, l'espace, ils pouvaient pas aller beaucoup plus loin avec Infinite, du coup,
Andromède,
ils reviennent.
Bon.
Oui, peut-être. Call of Duty Andromeda, c'est ça.
C'est déjà
mais,
fait.
Mais du coup, oui, ce qui est marrant, c'est que ça fait un petit peu moi aussi, comme on dit en anglais, ça fait un petit peu Me Too après Battlefield, tu vois, alors que bon, le jeu avait commencé à être développé, bien sûr, on s'en doute bien avant qu'on sache que Battlefield allait
ah oui, complètement.
Sur la
mais
première.
C'est vrai que bon, quand t'es le second à dégainer...
Ouais, voilà. C'est comme dans One to Switch, quand t'es le second à dégainer, t'as l'air d'un con, mais la différence, c'est que dans One to Switch, quand t'es le premier à dégainer, t'as l'air d'un con aussi.
Donc, ouais, c'est ça. Mais t'as gagné.
Mais t'as gagné. Bon, on prend ce qu'on peut.
Voilà.
Capcom va enfin améliorer le mode en ligne de Street Fighter V. Alors, il y a une bêta très bientôt. Et ils vont l'améliorer, c'est-à-dire qu'ils vont, il va y avoir des temps de chargement moins longs et des systèmes plus efficaces pour punir les gens qui quittent
J'ai vu que ça posait des vrais problèmes, quoi.
Bah oui, non mais... Et le truc, c'est qu'on se dit, ah putain, ça leur a pris un an, machin... Alors oui, c'est vrai, mais à mon avis, ils ont commencé à bosser dessus il y a un an, quand ils se sont rendus compte que c'était la merde.
Ils avaient un peu oublié.
Et tu sais quoi, moi, au-delà des gens qui se barrent en plein milieu des combats, ce qui m'a fait lâcher Street Fighter V, c'est les temps de chargement. C'était infernal, parce que le jeu en lui-même est bien quand tu joues, mais vraiment, tu passes la moitié de ton temps. Alors, c'est des trucs débiles, hein, mais genre, quand tu quittes une partie en ligne... tu es obligé de recharger le mode dans lequel t'étais, alors que vu que le niveau et les personnages sont déjà chargés, ils pourraient te donner l'option de te dire bon bah tu restes sur le même niveau, il y a un bot, tu vois, en entraînement, bah l'autre perso il se transforme en bot d'entraînement, puis voilà, puis t'as rien à recharger, au moins pour quand tu sors d'un combat ne pas avoir à recharger des trucs. Mais non, il fallait quand même que tu recharges le mode d'avant, genre le training, le machin. Pff. Oh là là, c'était infernal. Donc là, enfin, ça va changer. Moi, je ne désespère pas de jouer un petit peu à Street Fighter V quand même. J'y ai joué un petit peu. Mais voilà, pour ceux qui l'ont mis de côté. Et puis, je voulais quand même évoquer ce truc. Enfin, ce truc, je suis méchant. Mais je voulais évoquer Nier Automata. Parce que c'est vraiment un jeu qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Et on ne pouvait pas ne pas en parler. Mais moi, je vais en parler pour presque appeler le témoignage des auditeurs, parce que moi, c'est un jeu que je ne comprends pas.
Et moi non plus.
Pareil. T'as fait la démo.
Non, j'ai même pas fait la démo. J'ai regardé des vidéos.
Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce
que c'est ? Toi, t'es du let's play, Mister Let's Play.
Ah oui, mais je regarde beaucoup de streams de jeux et là, pour le coup, je comprends pas l'engouement autour de ce jeu. Enfin, pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit? Je comprends pas.
Bah, pareil. Et moi, j'ai fait la démo, hein. Alors oui, la démo, c'est qu'une petite partie. Mais enfin, vraiment, quand t'accroches aussi peu, je doute que tout à coup, dans le jeu complet, ça me subjugue. Peut-être, hein, mais j'en doute. Et pourtant, j'ai beaucoup écouté de gens qui en parlaient, qui disent, tu vois, le premier Nier, c'était un truc incroyable. Enfin, c'est un jeu culte. Alors, il s'est pas beaucoup vendu, hein, mais c'est un jeu culte. C'est pour ça qu'ils font le deuxième, qui s'est beaucoup mieux vendu que le premier. Directement. Et puis j'ai beaucoup écouté les gens qui disent mais je vois pas. Alors il y a des gens qui parlent de gameplay, des gens qui parlent des 25 fins différentes, des gens qui parlent de oui mais tu vois quand tu l'as fini la première fois t'as rien vu donc c'est pas là que tu comprends machin. Et je suis sûr qu'il y a des tu vois je dis pas qu'il que c'est pas le cas hein, mais j'ai l'impression que vraiment c'est pas pour moi quoi. Il y a des voilà, je sais pas, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, je suis curieux s'il y a des auditeurs qui pourraient essayer d'expliquer les raisons et les qualités, les raisons pour lesquelles une certaine partie de l'industrie, hein, vraiment, on peut dire, a ce tel engouement pour Nier. Si vous avez un moyen d'expliquer, peut-être que je pourrais comprendre. Je suis curieux parce que c'est une bestiole un peu étrange pour moi. Je suis dubitatif.
Ouais, hermétique, complet.
Ouais. Bon, voilà. Passons un petit peu du côté de Sony. Horizon Zero Dawn s'est vendu à 2,6 millions d'unités pendant les deux premières semaines, ce qui est le meilleur démarrage pour une nouvelle licence sur PlayStation 4. Alors oui, c'est la PlayStation 4, donc il n'y a pas toutes les meilleures licences de l'histoire, mais bon. Quand même dire que c'est pas ridicule. Et puis bon, 2,6 millions, c'est pas ridicule. Ce qui est intéressant, j'allais dire louable, mais ce qui est intéressant à plusieurs égards, d'une part, parce que c'est un succès pour ce jeu dont on craignait qu'il aurait pu être éclipsé par la sortie de Zelda, qui a fait beaucoup de bruit et qui était un petit peu dans le même registre d'open world innovant qui réussissait à casser avec les formules du genre. Et puis bon, là on se rend compte que quand même 50 millions de PS4, bah oui, ça veut dire que par rapport au nombre de Wii U et de bah oui.
Et comme il n'y a pas une nouvelle licence, un gros triple A qui sort tous les mois, bon.
C'est ça. Il y avait quand même une certaine attente pour celui-là. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est le fait qu'il y ait une héroïne qui soit bien réalisée et bien, enfin qui soit un bon protagoniste, qui n'a pas du tout ralenti visiblement les ventes, enfin peut-être, mais enfin c'est quand même un bon chiffre. Et on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres des Horizon, même si visiblement l'histoire est bien contenue, bien complète. Donc voilà, plutôt un succès pour Guerrilla Games surtout, dont les Killzone étaient un petit peu, voilà, on va dire que ça faisait bouger un sourcil, mais Killzone au-delà de la démo technique, c'était pas les jeux les plus incroyables de la Terre. Là, il y a un vrai succès.
Non,
pour
il y a un
nouvelles...
vrai. En plus, il y a un vrai univers. Il y a, enfin, il y a un vrai travail d'écriture, je trouve. Et...
Tu y as joué, toi?
Non, toujours pareil.
Ah,
j'ai
toujours
pas PS4,
let's play, quoi.
Voilà, mais par contre, j'ai suivi quasiment tout le jeu avec Jeff, qui l'a streamé sur la chaîne de Geeking, donc...
C'est vrai.
Donc voilà, et c'est magnifique, mais ce genre... Tu vois, celui-là, il est ajouté sur ma liste. Et sur la liste des
aussi,
à faire.
Ouais, qui est décidément très longue.
Qui est très longue.
Les jeux PlayStation Now arrivent sur la PlayStation 4. Non, pardon. Les jeux PlayStation 4.
Voilà, l'inverse.
Dans l'autre sens.
Arrive sur PlayStation Now.
Ouais. Et alors ça, d'une part, c'est intéressant parce qu'on se souvient que le service de streaming, hein, donc PlayStation Now, par abonnement, avait des jeux PlayStation 3 et peut-être même PlayStation 2 jusqu'à maintenant. Là, il y aura aussi les jeux PlayStation 4. Le service est disponible désormais sur PS4 et sur PC. mais pas sur d'autres plateformes. Hein. Ils ont éjecté la PlayStation 3 et la Vita et bon des téléconnectés. Moi, je me dis que les téléconnectés pourront peut-être revenir à terme, mais surtout et surtout au-delà de ça. Il y a le fait que le prix a chuté. Alors c'est aux États-Unis, hein, je pense pas qu'on peut peut-être s'abonner en faisant des bidouilles, mais les serveurs sont pas en France, donc c'est, il y a un petit peu de lag quand même. Mais surtout le prix a chuté, c'est à $99 par an. Et ça je l'avais pas vu passer, ou $20 par mois, mais c'est quand même moins cher qu'avant. Alors $99 par an, ça me paraît raisonnable pour ce type de service, si bien sûr il y a des bons jeux. Vu les jeux Sony, je me dis que pour quelqu'un qui les a pas fait, ça peut peut-être valoir le coup, ouais, s'il y a des bons jeux Sony, quoi.
Complètement.
Ouais.
Je trouve que la baisse de prix fait que ça, enfin, si la baisse de prix est répercutée chez nous, c'est carrément intéressant. Mmh. Et même sans baisse de prix, le fait que les jeux PS4 débarquent, bah, ça peut être pas mal, effectivement.
Voir lesquels, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que ça dépend ce qu'ils, vont mettre dans la liste, ouais, clairement.
C'est ça. Moi, je me dis que s'il y a The Last of Us, la série des Uncharted...
Je pense que oui, quand même.
Ouais, c'est ça. Et puis, à terme, des trucs comme Horizon, enfin d'autres, quand on aura
Killzone, un vrai catalogue... Dedans,
oui, Killzone, ça me convaincrait moins, mais...
Moi non
mais
plus,
oui, y a
moi
plein
aussi,
de petits trucs, quoi.
Effectivement.
Il y a plein de petits trucs sur PlayStation, un catalogue qui peut devenir intéressant... surtout si vous avez pas de PS4, par exemple, ça peut se connecter sur PC, ça peut être sympa avec une manette. Je pense qu'on est en train d'arriver entre ça et puis l'offre de Microsoft avec le Xbox Game Pass et ce genre de choses. Mm. On est en train d'arriver dans un domaine où, comme je le disais la dernière fois, bah, ça, ils trouvent leur place, ils vont trouver leur place, ces services, à condition qu'ils aient,
qu'ils aient un
bon catalogue, bien sûr. C'est ça. Subscription Games on Demand.
Voilà, c'est ça.
Et par contre, la PS3 arrive en fin de production, donc
Il serait temps.
10 ans vénérable. mais bon, on se souvient quand même qu'elle avait eu des débuts difficiles, hein, la PS3.
Moi, j'ai la toute première.
Oula, la grosse, là, la PS3,
je l'ai toujours.
Fat.
Je l'ai toujours avec ses 60 gigas de disque dur mécanique
et
son lecteur Blu-ray. Et elle marche toujours. Et en plus, c'est celle avec, tu sais, le hardware de la PS2 dedans, en plus.
Ah donc oui, donc rétro-gaming, elle est rétro-compatible.
Et oui. Ah c'est mal, très pratique.
Quoi d'autre? Bon, alors, il y a GameStop qui continue à avoir des problèmes. Hein. GameStop, ouais, on le sait, c'est Micromania aussi en France. Alors, ils ont des ventes qui ont chuté de 14% au dernier trimestre. C'était... Bon, voilà.
C'est moche, c'est Noël.
Ouais. Et donc, ils vont devoir fermer 150 magasins. 150 magasins qui sont pas les meilleurs, les plus performants du monde. Mais enfin, quand même. Je sais pas si c'est aux US ou dans le monde, les 150. Mais enfin, ils en ont des milliers, hein, des magasins. Donc, c'est quand même une petite partie. Mais il n'empêche, hein, on se souvient qu'ils avaient fait un gros push avec essayer de vendre d'autres choses. Bien sûr, ils poussent toujours l'occasion. Ils ont des accessoires, des trucs comme ça. Bon, c'est quand même compliqué, c'est pas la révélation de l'histoire, hein. Effectivement, avec à l'heure de l'internet, ma bonne dame, les ventes sont compliquées. Mais tu vas toi acheter genre à la Fnac, à GameStop. Bon, la Fnac ils vendent autre chose que des jeux, mais Micromania.
Ça m'est arrivé quand je voulais un jeu vraiment le jour même, enfin le jour de la sortie. Des fois même la veille, lol.
Ouais.
Mais pour le jour de la sortie, ouais, ça m'est déjà arrivé. Y a pas si longtemps que ça. Je sais plus ce que j'avais acheté d'ailleurs, mais j'ai une carte hein, d'ailleurs, Micromania.
Moi aussi, ouais.
Mais quand vraiment je veux un jeu le jour de la sortie, parce que dans ma zone, souvent Amazon justement livre avec colis privé ou ce genre de truc.
Ouais, donc tu dis,
je suis certain d'avoir le jeu deux semaines après.
Et t'as pas un point relais ou un truc comme ça où ils peuvent le déposer?
Non, mais même.
Bon,
ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais réussi à avoir Day One les jeux que je voulais. Pour te dire, d'accord. Même au point que pour Andromeda, pour être sûr de l'avoir Day One, je l'ai pris
en démat
sur
Amazon. Origin. Ah oui, d'accord.
Non, j'ai pris sur Origin en démat en le payant plein pot. Voilà, donc bon. Pigeon jusqu'au bout, mais voilà. Donc du coup, ouais, pour ça c'est bien. Mais après, effectivement, j'y passe pas toutes les semaines, quoi, ni tous les mois.
Oui. Bon, t'es pas le seul.
Ça va être une fois dans l'année, quoi.
Ah là là, tu sais que j'ai travaillé dans un game moi à l'époque. Bon, c'était il y a longtemps. Hein, je vais pas vous dire quand, mais c'était il y a longtemps. Mais oui, c'est des souvenirs tout ça.
Non,
game.
Mais les boutiques physiques aujourd'hui c'est très difficile. Et moi j'ai travaillé dans une boutique physique, hein, pas du tout dans le même domaine, mais pareil, elles ont disparu d'ailleurs ces boutiques. Donc
oui. C'est vrai. Bon, ouais. En même temps, vous vendiez du matos, hein. C'était pas dématérialisé encore, les téléphones.
Et du service. Donc,
et du service, oui. Mais bon.
Et du service, donc.
Le service, ils te le mettent,
mais d'ailleurs,
ils te
on avait
toujours
un patron commun avec Micromania, puisque c'était Pierre Cuiret qui avait fondé The Phone House et Micromania.
Ah oui?
Donc, comme quoi, tu vois.
Je
ne
me souviens même plus du nom de. Ah,
et
écoute.
Si.
Notre filiation est lointaine, mais profonde.
Voilà, exactement.
Bon, parlant d'un truc lointain, dernière news de la journée, c'est la sortie, enfin l'annonce.
Ah, mais ça c'est la news la plus importante.
Du remaster de StarCraft pour toute une génération de gamers qui ont découvert le jeu en ligne et le jeu compétitif.
Qui ont usé les sièges des cybercafés.
C'est ça, et j'ai l'impression que tu en fais partie.
Ah oui.
Oui, c'est vrai. Mais alors, raconte-nous
les tournois
ton enfance,
organisés dans les. Non, mais mon enfance, pas exagéré, mais j'avais quel âge? J'avais 15 ans, 16 ans.
Ah, quand même.
Au lycée, interne. Et le mercredi après-midi entier, à jouer à StarCraft et se faire des tournois dans les cybercafés, dans la région de Pau, j'étais, tu vois.
Ouais.
Et avec mes potes, on jouait qu'à ça. On était 7 ou 8, et même pire que ça. On les avait installés sur les ordinateurs des surveillants. Le soir, au lieu d'aller en étude avant, entre la fin des cours et le réfectoire du soir et l'internat, les surveillants nous demandaient de venir jouer avec eux à Brodoir et tout ça. Et donc, on allait dans leur bureau, ils disaient, on a un problème informatique, venez nous aider. Et en fait, on était deux à se lever. Et en fait, on allait jouer à StarCraft. Ils avaient quatre ordinateurs, il y avait deux surveillants et on jouait à StarCraft dans le bureau des surveillants.
Pas mal.
Parce que bon, voilà, c'était... On leur avait installé, mais c'est nous qui avions les CD, puisque bon.
Ah oui, il est malin.
Eh ouais.
Mal. Bah écoute, là, vous n'aurez pas besoin de CD, hein. C'est un remaster 4K avec du HD qui garde complètement le style d'origine. Hein. C'est limite moche, mais moche comme à l'époque.
Ouais,
sauf que
l'époque.
C'est bien foutu, tu vois. Sauf que les lignes sont fines, quoi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour l'occasion,
StarCraft, je pourrais jouer sur mon iMac. 27 pouces.
Oui, je sais pas si c'est sur Mac aussi.
Oui.
Mais, oui,
il a été annoncé sur Mac.
Très bien. Mais du coup, oui, entre parenthèses, l'original StarCraft et Brood Wars, si je ne m'abuse, est du coup gratuit, à partir de très bientôt, là. Mais donc, le remaster sortira cet été, on imagine, pour une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont pas annoncé de prix. Mais voilà.
C'était tellement bien.
Ouais, je crois que il y a peu de jeux, enfin il y en a bien sûr, mais qui ont eu une telle influence sur le monde du gaming, l'émergence de l'e-sport, tout ça, surtout en Corée, les fous furieux en Corée, bah c'est StarCraft, qui était encore un jeu joué activement jusqu'à il y a pas si longtemps. Je suis sûr qu'il y a des gens qui y jouent encore, mais je veux dire, jouer en e-sport en Corée. StarCraft 2 n'a pas vraiment réussi à le remplacer, vu que la mode est plutôt passée au MOBA. Mais oui, donc ça a effectivement fait très très plaisir à un certain nombre de joueurs, cette annonce de StarCraft Remastered.
Ouais, mais c'est cool qu'ils aient fait ça, parce qu'en plus, bon, enfin, franchement, je l'attendais pas.
Hein. Ah oui, bah, on avait des rumeurs depuis un certain temps.
Ouais, mais
avec
une rumeur
et des annonces, en fait, c'était des offres d'emploi qui nous ont laissé entendre que.
Ouais. Mais là, pour le coup, tu vois, tu te dis pourquoi. C'est un cadeau. Non. Mais presque.
Bah, tu sais. C'est pour faire de l'argent, bien sûr, mais
bien
je crois
sûr,
qu'il y a, connaissant un petit peu cette boîte puisque j'y ai travaillé, je crois qu'il y a un vrai amour du produit et une envie d'avoir une sorte d'archive de bibliothécaire de tous les grands jeux qu'ils ont développés, tous les grands jeux, exactement. Et du coup, moi, j'imagine très bien que Diablo, peut-être un ou deux, ou les deux,
ressortent
aussi, oui. Voire peut-être même les Warcraft,
Lost
pourquoi
Viking.
Pas. Lost Viking est dans leur, dans le l'éthos, tu vois, dans l'ADN de Blizzard. Et même des trucs comme, comment il s'appelle, Blackthorn. Tu vois qu'il y a quand même, alors il y a des trucs où c'est moins le cas, Rock'n'Roll Racing un petit peu aussi, mais bon, de Death of Superman non, mais ça c'était encore
ça,
c'est un
ça,
parcours, mais bon, clairement il y a Warcraft, StarCraft et Diablo qui sont les piliers de Blizzard et maintenant Overwatch bien sûr, mais donc
très
il serait pas du tout surprenant,
c'est
pas
un
du
jeu
tout
qui est
surprenant
important pour
de
moi,
voir de voir les autres jeux de ces trois piliers qui suivraient à terme. Et je pense qu'ils veulent avoir leur lanceur Blizzard, puisqu'ils n'appellent plus le lanceur Battle.net, mais le lanceur Blizzard, d'avoir tous leurs jeux sur le lanceur Blizzard, enfin tous leurs jeux, ces jeux importants, qui soient disponibles, quoi. Et bien sûr Overwatch. Donc, pourquoi tu dis c'est un jeu important pour toi?
Ah, c'est un jeu important pour moi parce que c'est le jeu où des fois je me dis bah, allez, j'ai envie de jouer, de me détendre, qu'est-ce que je peux faire? Et le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est Overwatch. Et juste parce que ben c'est rapide, je suis sûr d'y trouver des potes et de m'amuser. Et ça, je connais aucun jeu où je me dis après avoir joué, même si j'ai perdu, où je puisse, c'est le seul jeu où je me dis bon, je me suis quand même amusé, quoi.
Ouais.
C'est parce que l'ambiance générale, et je trouve tous les personnages attachants. Et voilà, et je suis absolument fan de ce jeu et de cet univers, quoi.
Bah moi, c'était bon cas jusqu'à ce que je me lance dans le ranked, dans les parties classées. Et j'ai eu une longue période où je rageais comme
j'en
un
fais
fou.
Très peu des parties classées, tu vois, pour
mais
te
bon,
dire.
Maintenant,
parce
j'ai
que c'est
une
pas
pause,
ce que je cherche.
Ouais,
je comprends. J'essaye de m'amuser. Et c'est l'amusement instantané.
Je suis d'accord. Complètement d'accord. Mais écoutez, si vous en voulez plus sur Overwatch, vous pouvez écouter, et que vous parlez anglais, vous pouvez aller écouter Overwatchers, qui est mon émission en anglais sur Overwatch, ou alors d'ailleurs Radio Overwatch de Sylvain, qui était là à l'épisode précédent. Eh bien écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure cet épisode. Est-ce que tu veux dire un dernier truc de gaming, ou est-ce que c'est bon, on referme la porte?
Non, tu peux refermer la porte.
Très bien.
Allez.
Bah écoute, on referme la porte et pour donner l'occasion aux auditeurs d'en avoir un petit peu plus à faire, on va te demander de nous dire où on peut te retrouver toi et toutes ces
et
vidéos
dont
tu
oui.
parles. Oui.
Et oui, parce que bah on peut retrouver sur geeking.fr, donc l'émission qui maintenant va sur ses 9 ans. Émission sur sur la culture geek en général, le high tech, les jeux vidéo et tout ça, mais on a plein de dérivés et tout. Et surtout, on a une chaîne Twitch où quand on enregistre nos émissions, on est en direct d'ailleurs, on le fait en direct maintenant, sur twitch.tv/geeking. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre, il y a un raid, inter-slacker, hein, la guilde des slackers, avec les gens du Slack de Patrick et du Slack de Geeking qui sont en train de tomber, ils doivent encore être sur Karazhan, à tomber des boss à tour de bras. Tous les lundis soirs, voilà, ils streament du WoW. Et là, maintenant, nous, on va avoir par contre de l'Overwatch à partir de mercredi. On a recruté deux petits nouveaux qui jouent très, 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 très bien. Et qui vont faire du stream d'Overwatch, mais on stream un peu de tout, y compris nos émissions. Donc, on a des émissions sur le rétro gaming, RGB, qui marchent très très bien. Et qui, bah voilà, pour ceux qui veulent retrouver du jeu comme Lost Viking, n'hésitez pas à regarder cette émission. Voilà.
Très bien. Et donc, c'est sur geeking.fr.
Geeking.fr, ouais, il y a tout.
Voilà. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous le savez. L'émission est disponible sur frenchspin.fr. Vous pouvez venir me dire pourquoi vous aimez Nier Automata dans les commentaires de l'article de cet épisode.
Vous détestez Mass Effect Andromeda.
Aussi, encore que ça, je le comprendrai plus. vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur votre catalogue de podcasts et nous laisser des reviews et des étoiles, comme par exemple November, Auréjean et F Donkeys, de Suisse, de France et de Belgique. November nous dit, je sais pas vous, mais moi j'aime bien un podcast de qualité, des invités somptueux, un podcasteur de génie, des sujets magnifiques, recommandés à tous ceux qui aiment le jeu vidéo intéresse. Merci à toi November. Et puis je lis quand même celle de F Donkeys qui dit génial, toujours 5 étoiles, super podcast qui m'accompagne lors de mes longs trajets, point, Patrick Président, .. Écoute, j'ai déjà un parrainage de la part de F Donkeys, il m'en reste plus que 499, parce que je suis sûr que quelqu'un qui fait des commentaires d'une telle qualité ne peut qu'être un élu de la République. En même temps, il est belge. Bon, il va falloir que j'aille me présenter en Belgique alors. Très bien. Bah écoutez, on va y réfléchir. Bon, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés justement. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous!
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.